17h, vous écoutez Radio PFM à Arras, Radio PFM sur le 99.9, Radio PFM en direct du Salon du Livre du 1er mai à Arras. Dernier rendez-vous ici d'une journée bien remplie, ici donc au studio PFM, mais bien sûr sur tout l'espace du Salon. Nous nous trouvons, pour information d'ailleurs, entre le chapiteau des auteurs, place de la Vacquerie, et la buvette du salon qui se trouve dans la cour de l'hôtel de ville. Vous pouvez encore nous rejoindre. Il y a toujours des auteurs à la dédicace et il y a toujours à boire à la buvette. Dernier débat, donc, vous disais-je, en ce qui concerne le studio mobile de Radio PFM, un débat qui s'intitule « Écrire le sport ». Non, c'est une plaisanterie, c'est pour vérifier si mon partenaire... Si mon partenaire est attentif et est prêt, hein. Donc non, Hervé, hein, il s'agit bien du débat que nous avons préparé tous les deux. Il y a quelque chose de pourri dans ce monde. En tout cas, il y a quelque chose de bien aujourd'hui au studio de Radio PFM. Mais c'est une première, une collaboration entre Radio PFM et l'association 813, qui est représentée ici, l'association 813, l'association des amis des littératures policières, qui est représenté par son président, Hervé Delouche. Bienvenue.
Merci Guy.
Bienvenue Hervé. Donc Hervé 813, nous allons co-animer ce débat. Et vraiment PFM, nous sommes très heureux de cette nouvelle collaboration. Et nous espérons donc qu'elle ira au-delà de ce 1er mai 2013.
Alors, il y aura d'autres 1er mai.
Voilà, donc nous avons invité trois auteurs, enfin une auteure et deux, non, bon trois auteurs. Nous avons invité trois auteurs, Ingrid Astier, mais je vais commencer par elle, hein, Ingrid Astier pour son dernier roman, Angle mort, paru à la Série Noire il y a quelques mois. Nous avons invité aussi Jean-Hugues Opel, donc pour un roman qui vient de sortir en Rivage... Rivage Noir, un roman intitulé Vostok. Particularité, ce roman porte le numéro 900, hein, d'une collection prestigieuse aujourd'hui du roman noir, une collection française donc prestigieuse, ce qui n'est pas rien. Enfin, François Medellin pour La politique du tumulte, un roman qui est sorti fin 2012.
Octobre 2012.
Octobre 2012. Aux éditions La Manufacture de Livres. Bienvenue à tous les trois au studio de PFM. Alors donc, Hervé,
donc oui, Guy.
Pourquoi avons-nous invité ces trois auteurs et pourquoi un débat qui s'intitule « Il y a quelque chose de pourri dans ce monde ».
Alors, il y a quelque chose de pourri dans ce monde, c'est un objet de travail de la littérature du roman noir. Je vais citer une phrase bien qui est assez connue, qu'on cite très souvent de Raymond Chandler, qui disait Hamet, Dashiell Hamet, l'auteur de La Moisson Rouge, du Faucon Maltais. Hamet a sorti le roman policier du vase vénitien pour le jeter dans la rue. Ce n'est pas un monde reluisant, celui qu'il écrit, que nous écrivons, mais c'est celui dans lequel nous vivons. Donc, ce monde pas reluisant, ce monde où il y a quelque chose de pourri, c'est l'objet du roman noir. C'est un peu on peut dire, en schématisant un peu, que c'est quand même la rupture, c'est la différence avec le roman à énigmes que vous connaissez tous. Enfin, voilà, il faut découvrir un coupable, il faut résoudre un mystère, était un roman de type plutôt rassurant. À la fin, les choses rentrent dans l'ordre. L'originalité du roman noir tel qu'il surgit aux États-Unis dans les années 20, voilà, après la Première Guerre mondiale et juste au moment où commence à s'esquisser la crise économique, c'est un roman qui a la volonté de foutre le bordel, c'est-à-dire de braquer la lumière sur toutes les choses qui ne vont pas, sur la société, sur la face cachée de la société, de la dévoiler, en tout cas de l'interroger. Et voilà. Et évidemment avec une dimension sociale, pas uniquement celle-là, il y a aussi la plongée dans les ténèbres, les profondeurs des êtres eux-mêmes qui vivent dans cette société, mais de toute façon, cette préoccupation sociale, elle est très présente, quel que soit le style des romans. Bon, en France, tout ça a mis plus longtemps, schématisant, à arriver. C'est arrivé notamment avec Jean Amila, auquel est dédié le prix Amila Mecker, et qui est évidemment une figure emblématique du salon d'Arras. Et puis avec quelqu'un qui est resté très connu, qui est Jean-Patrick Manchette, qui a, disons que ces écrivains ont permis que surgisse au tout début des années 80 un nouveau roman noir français aux multiples facettes. Mais voilà, le polar était donc sorti de la chambre close et il racontait un monde très noir, empreint de pourriture, ce dont on va parler. Et les auteurs qui sont réunis cet après-midi, bah, ils représentent chacun à leur manière, on va le voir, cette tendance lourde. Et on va commencer avec François Medellin, avec un... C'est peut-être idiot, mais j'ai envie de vous poser une question d'abord sur le titre. La politique du tumulte, c'est un titre fort, et on va parler politique, on va parler tumulte.
Ouais, en fait, ça correspond un petit peu à la thématique de l'émission, dans le sens où on est là pour parler de la pourriture du monde. Bah, dans le monde, il y a une trilogie un petit peu magique, quoi. C'est le fric, le sexe et le pouvoir. Donc moi, c'est ce qui m'a intéressé, c'est de traiter ce cocktail un petit peu magique, quoi.
Alors, ce cocktail un petit peu magique, on le retrouve dans un roman très foisonnant, un peu tentaculaire, un peu... c'est difficile de le résumer, c'est pas le but d'ailleurs, mais on est, pour une très grande partie, on est en 1993, on a un fils de notable, ça se passe à Lyon et dans la région. On a un fils de notable qui est impliqué dans un scandale sexuel. On a des prostituées qui sont assassinées à la chaîne, disons. Et puis, on a une forte dimension politique, puisqu'on est en plein dans les luttes internes de la droite d'alors et la campagne de Balladur à la présidentielle. Les personnages réels pour la plupart n'apparaissent pas sous leur véritable identité, mais qui veut chercher trouve facilement pour certains d'entre eux en tout cas. Bah, quelle était la volonté ?
En fait, moi j'ai suis sorti de l'adolescence avec dans les années 93-95, donc c'est vraiment une période qui me fascine. Et cette période-là, c'est une guerre fratricide entre les Balladuriens et les Chiraciens, sachant que il y a un type qui a été premier ministre, enfin deux fois premier ministre, et sa dernière expérience en 86 lui fait dire que s'il retourne à Matignon, il pourra pas conquérir la présidence de la République, et c'est Chirac. Et il est en train de se faire baiser par les Balladuriens. Et moi, à l'époque, en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a fasciné, ce mec que tout le monde, enfin que Giscard en tout cas prenait pour un simplet, et qui a été deux fois Premier ministre, deux fois Président de la République, donc ça me fascinait. Donc j'ai travaillé sur de la fiction, parce que le moteur au départ c'est vraiment la fiction, mais l'arrière-fond du bouquin, donc c'est cette guerre-là, et je pense que cette époque, en fait, c'est la jeunesse de 20 ans de vie politique française, parce que Chirac les a tous exterminés, les Balladuriens, mais il n'a pas réussi à en exterminer un, qui est devenu président de la République en 2007. Donc on retrouve effectivement les personnages de la Sarkozy, Nicolas Bazire, Claude Guéant, qui est directeur de cabinet adjoint de Pasqua. Et donc, c'est pas un roman vraiment à clé, parce qu'on les reconnaît bien. Et en plus, à la fin du bouquin, j'ai essayé de monter ça en puissance, quoi, et essayer de faire autant que possible une espèce de feu d'artifice final où on a les vrais noms.
Il y a un personnage qui a une importance énorme dans ce roman, qu'on accompagne beaucoup, qui n'est pas un personnage très sympathique. Hein. On peut difficilement ressentir une empathie pour lui. C'est Segondi, Et c'est un barbouze calculateur, un barbouze particulièrement glaçant et qui contrôle tout, en tout cas qui a la volonté de tout contrôler et qui est là pour ça. Segondi, dont vous écrivez, il était l'un des bookmakers en chef de la République, de ceux qui font les bourrins et empochent les grosses mises. Parlez-nous un peu de Segondi.
En fait, je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais quand j'écris, moi, en fait, j'essaie de mettre mon intimité sur le papier, quoi. Et c'est vrai que ce personnage de manipulateur, en fait, m'intéressait vraiment. Et en fait, le héros du bouquin, c'est un autre personnage féminin au départ. Et puis, au fur et à mesure du livre, c'est ce barbouze de la République qui est devenu le véritable héros. Et ça m'a intéressé. En fait, j'avais besoin de quelqu'un qui était un peu dans le frigo de la République. Donc, je l'ai mis à Lyon. Lyon qui est un peu une ville jalouse, alors j'en ai fait la capitale politique du pays étant lyonnais, ça convient bien aux lyonnais. Et voilà, j'ai essayé de travailler ce personnage au maximum, pour qui j'ai eu beaucoup d'attachement en fait au fur et à mesure, parce que quand je parlais de l'intimité, c'est vrai que j'ai ce côté, je crois, en moi, un petit peu manipulateur, ou en tout cas réfléchir à 2-3 temps après l'action, aux conséquences de mon action originelle. Et je suis comme ça depuis que je suis gosse. Donc, ajouté à une petite forme, je crois, de paranoïa, mais je me soigne. Voilà, des fois, j'ai l'impression que les plaques d'immatriculation me parlent ou des trucs comme ça. Donc après, je me rends compte que je suis pitoyable, hein, et que c'est une maladie mentale. Mais voilà, c'est ce qu'il y a en moi, donc je le crache sur mon écran et puis après sur une feuille.
Et il y a, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de personnages fouillés d'ailleurs, tous fouillés, mais il y a beaucoup de personnages qu'on croise dans ce roman, mais il y en a un autre qui fait un peu contrepoint quand même, qui se prénomme Léa, et dont, je crois, ça doit être la deuxième ou la troisième page du livre, on sait, elle est journaliste, elle a une carte de presse encore, mais elle vient de se faire virer du Progrès, qui est le
journal grand, local.
Voilà, le journal local, puissant. Et ce qui a tendance à vouloir dire aussi que le contre-pouvoir, entre guillemets, à mon avis, mais le contre-pouvoir de la presse, et ça symbolise aussi toutes ces limites, qu'on va voir d'ailleurs par ailleurs, vu certaines conférences de presse que vous relatez dans le bouquin, des moments assez savoureux parfois.
C'est-à-dire que moi, mon barbouze de la République, il est bon, quoi, dans son métier. Donc la presse, pour lui, c'est un outil d'oppression et de manipulation. Donc il sert de la presse pour manipuler, il manipule la presse, il manipule les juges d'instruction. En fait, il monte un château de cartes. Et il sait qu'au moment où il va enlever la carte du bas, tout va s'écrouler. Donc c'est vrai que, de mon point de vue, je considère qu'au niveau médiatique, on n'a quand même plus trop, donc là c'est dans les années 93-95, mais même maintenant, du journalisme d'investigation, quoi. Là on a eu Mediapart, mais sinon, voilà, même vous le voyez au niveau local, voilà, y a des communiqués de presse qui sont repris par les journalistes, etc. Et je ne suis pas certain que le rôle de recherche, peut-être aussi pour des raisons économiques internes à la presse, soit toujours prégnant, quoi. Donc il y a le Canard Enchaîné, il y a Mediapart avec Cahuzac, mais je ne crois pas que ce soit, à l'heure actuelle en tout cas, la façon dont fonctionne le journalisme.
Alors François Medline, une question qui s'adresse directement à vous, François Medline. L'éditeur ne nous donne que très peu d'indications sur votre CV en quatrième de couverture. C'est écrit « François Medline est né à Lyon », on le sait déjà, vous l'avez dit, en 1977, donc je peux le dire, puisque c'est écrit sur la quatrième de couverture. Par contre, bon, j'ai pu lire ici ou là que, Edune, vous avez fait des études de sciences politiques. Et de deux, si j'ai bien compris, vous travaillez dans ce milieu-là. Alors, c'est aussi, comment dire, un exutoire d'un professionnel de la politique. Et qu'est-ce que vous faites exactement ?
Je suis collaborateur politique, donc je travaille pour un élu. Mais je compartimente assez, donc je travaille en fait pour moi, pour mes enfants, pour ma femme, pour mon petit appartement bourgeois et pour ce que je possède. Et puis je suis un petit peu schizophrénique aussi, alors ouais, c'est peut-être une forme d'exutoire. J'ai ça en moi, je sais pas pourquoi, et il faut que ça sorte, donc j'écris.
Alors, une autre question pour revenir dans le thème de ce débat. Lyon, ce n'est pas très loin de la Suisse. Hein. Donc, on a beaucoup parlé de la Suisse ces derniers temps. Et est-ce que l'auteur, en fin de compte, vous débutez hein, dans le roman noir, est-ce que ce qui s'est passé ces derniers temps, ça vous donne des idées et comment vous comparez ça à l'époque que vous avez particulièrement explorée, hein, celle dont Hervé nous a parlé?
Les choses se répètent, quoi. C'est-à-dire que ça fait un petit peu plus de bruit, beaucoup plus même de bruit médiatique maintenant, parce que peut-être que les personnes sont moins compétentes dans leur saloperie, quoi. C'est-à-dire que sous Chirac, les choses étaient bien faites, quoi. Mais... maintenant, on a un ministre de l'Intérieur qui est spécialiste en peinture hollandaise et dit « Allez chercher sur Google, vous verrez la cote du peintre. » Et les gens, ils vont chercher sur Google, c'est pas la bonne cote, quoi. Ça fait pas 500 000 euros. Donc, en fait, je pense qu'il y a une question de compétence pour être cynique, hein, qui était supérieure à l'époque où il y avait quand même des figures emblématiques. Et moi, je suis assez... je suis pas chiracien, mais je suis assez fasciné par ce personnage qui a dit « Qu'est-ce qu'elle veut la mégère ? Que je mette mes couilles sur un plateau en parlant de Thatcher ?» Ou quand en 95, ils sont rentrés dans le bureau en lui disant « Fais quoi de Nicolas ?» Il a dit « Il faut lui marcher dessus avec le pied gauche parce que ça porte bonheur. » Donc c'est quand même un mec... c'est un mec qui m'intéresse parce que son sens de la formule, le fait qu'il soit jamais allé en prison, ça paraît quand même surprenant, quoi.
On imagine mal François Hollande dire ça à Merkel, quoi.
Ouais, plus difficilement. Ouais.
Voilà. Pour les personnes qui sont présentes, une petite information. On va passer en revue les trois livres dans un premier temps, hein, des trois auteurs invités. Et puis ensuite, on ouvrira le débat. Et donc, si vous souhaitez intervenir, hein, on le fera à ce moment-là sur le thème général de notre émission. Donc, Hervé.
Je voudrais encore poser une question à François Medellin. À un moment, il y a un des personnages, c'est un truand, il est en tôle. Bon, en lisant le livre, vous découvrirez pourquoi, quel est son rôle, qu'on surnomme Max le Fêlé. Je crois que c'est Max Gontran.
Maxime Gontran.
Voilà. Et il dit ces deux phrases. T'es fort, tu prends. T'es faible, tu meurs. C'est évidemment une parole de truand. Mais est-ce que ce ne serait pas aussi, au regard de toutes les turpitudes que vous racontez, la devise des puissants en général ? Avec des formes, parfois.
Lui, c'est un rapport direct, quoi. Hein. Donc ouais. Lui, il prend les vies, il prend le fric. C'est un dingue, quoi. Hein. Voilà. Et il est fasciné par Mylène Farmer, pour ceux qui veulent lire le livre, parce que c'est son obsession sexuelle. Après, ouais, quoi, c'est un monde de brutes, quoi. Quand je parle de cocktail magique, quoi, il y a le sexe, le fric, le pouvoir. Après, il y a les voraces et ceux qui ne le sont pas, quoi. En tout cas, le truc, c'est que c'est pas forcément la réalité, c'est ma réalité. C'est-à-dire que moi, j'ingère du réel et puis après, je le recrache sur un écran. Et en fait, c'est complètement délirant, mais ça me semble beaucoup plus important que la réalité quand j'écris. Donc le Chirac qui est dans mon bouquin, forcément, c'est pas Jacques Chirac. C'est mon Jacques Chirac, mon Jacques Chirac fantasmé. Mon Lyon de 93-95 n'a jamais existé, sans doute. Mais pour moi, il existe et il est plus important que le reste. Donc c'est vrai qu'il y a cette espèce de voracité dans des rapports de domination entre les humains. Et après, quand ça devient un système et un système politique, et ben, c'est organisé et il y a des gens qui sont là pour le faire respecter.
Alors, on va quitter Lyon, on va quitter la France, on va s'éloigner, on va partir assez loin. Avec Jean-Hugo Pell pour son dernier roman, Vostok, Hervé.
Oui, alors, parce que évidemment, le roman noir français... Il nous parle de l'Hexagone, il dissèque ce qui s'y fait. Jean-Hugo Pell l'a déjà fait avec un certain nombre de livres. On peut rappeler French Tabloïd ou Réveiller le Président. Mais il y a aussi le roman noir français est devenu aussi beaucoup plus curieux que cela. Et la frontière était le thème central de ce salon. Donc le roman noir français a dépassé les frontières, évidemment. Et comme Caril Ferré a pu le faire avec Zulu, comme Patrick Barr le fait depuis La Frontière, justement, et d'autres. Là, eh bien, nous sommes en territoire Awazati. Jean-Hugues Opel, qu'est-ce que c'est le territoire Awazati?
Oh, c'est un lieu de vacances idéal si vous aimez le soleil et ne pas être embêté par les voisins. Mais il faut vraiment aimer le soleil. Parce qu'en gros, c'est un endroit où il fait en moyenne 50 à l'ombre. Et je précise toujours qu'il n'y a pas d'ombre. Donc il fait plutôt chaud. Et c'est un territoire africain. Un endroit bizarre sur la carte. Les endroits que j'aime bien, où on ne sait jamais très bien à quel pays ça appartient. Mais donc un endroit profondément humain, où il se passe des choses profondément humaines, donc très noires.
Alors justement, on apprend dès les premières pages que toutes les informations concernant ce fameux territoire Awazati sont classées confidentielles. Évidemment, le roman est là pour faire tomber la confidentialité. Mais justement, les choses très noires qui s'y passent, vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oh, pour faire court, le roman est né de plein de choses privées qui ne vous regardent pas et d'une chose beaucoup plus publique qui est quand j'ai découvert à travers les actualités l'existence des terres rares, qui sont donc une espèce de minerais avec des noms très jolis et qui entrent en majorité dans la composition de toute la nouvelle technologie des écrans plats, des téléphones portables, des fusils à lunettes, des forces spéciales, etc. et qui prennent une importance absolument démoniaque, qui sont même presque en train de reléguer les enjeux pétroliers à l'arrière-plan. Et là, ça passe vraiment devant, et ça explique, je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, une grande partie de tous les grands bouleversements qu'il y a sur l'Afrique en ce moment, autour du Kivu, du Congo, et de ce genre d'endroits-là. Et moi, ça m'a passionné, puisque... comme c'est humain, comme c'est noir, c'est mon boulot, donc j'ai eu envie de rentrer là-dedans. En plus, le mot « terre rare » était rigolo, puisqu'elle n'a de rare que le nom, puisqu'en fait, il y en a plutôt beaucoup par rapport à ce qu'on aurait pu en penser. Et surtout, c'est ce qui m'intéressait, c'est le côté métaphore par rapport au polar, justement. On ne va pas s'entretuer pour des lingots d'or ou des sacs de blanche. En ce moment, il y a des morts qui ne sont pas métaphoriques pour des enjeux économiques, des enjeux miniers. On est prêt à se tuer pour justement s'assurer l'exploitation de ces terres rares. Ça explique des milices, ça explique des coups d'État, ça explique des grands enjeux géostratégiques quand on sait que, par exemple, quasiment 90% de ces terres rares sont raffinées et revendues par la Chine, mais qui n'en a pas, ou très peu. Donc ça veut dire qu'il faut aller les chercher ailleurs. Ça explique, par exemple, aussi la présence chinoise en Afrique. C'est pas que pour l'amour des éléphants et des ananas. Loin de là. Et on achète des gouvernements, on achète des gens. Tout le monde commence aussi à faire des petits trous, parce que justement, comme elles ne sont pas si rares que ça, on peut en trouver, hélas, facilement dans son jardin. Donc les mines sauvages se multiplient. Qui dit mine sauvage dit patron sauvage. Et c'est toujours les mêmes qui trinquent et qui restent au fond. Enfin, tout ça, on est 100% dans le polar, alors qu'au départ, on serait plutôt dans un cours, de SVT, tendance géologie. Pas mal.
Alors la société s'appelle Metal Ica. J'y vois évidemment une sorte de référence à l'amateur de hard rock que je crois que vous êtes.
C'est pas la même bande son que chez François voilà. Medline. Hein. On passe de Mylène Farmer à autre chose.
Mais alors il va y avoir un charmant grain de sable, mais il y a une fonctionnaire internationale envoyée par l'ONU. Tania Lawrence, qui va venir enquêter sur l'exploitation des mines et l'exploitation des mineurs, surtout. Quelques mots sur Tania.
Oula, quelques mots sur Tania, mon Dieu.
Ou plein de mots sur Tania. Hein.
Plein de mots, non. C'est...
Il a quand même écrit 300 pages, hein, oui. Quasiment sur Tania. Et tout,
je sais.
C'est toujours le problème. Il faut souvent avoir des personnages un peu positifs. Et moi, je reconnais que j'ai du mal à faire des garçons positifs. En même temps, le roman noir français ou international a fait déjà beaucoup de mauvais garçons, beaucoup de très beaux brins ténébreux et d'agents secrets. Et de toute façon, ma maman m'aurait tiré les oreilles si je n'avais pas des beaux rôles aux filles dans mes bouquins. Donc souvent, je confesse, le héros est plutôt de sexe féminin, mais jamais non plus totalement grand chevalier blanc. Non, moi j'aime bien. J'aime bien parce que c'est le... S'il fallait parier entre auteur ou auteur, c'est une fouineuse, c'est une emmerdeuse, c'est un emmerdeur, c'est celui qui vient mettre ses grands pieds dans le plat, sans forcément avoir de... Comment dire... Elle n'est pas naïve non plus. Elle se doute bien que quand les enjeux financiers sont importants, les dogmes s'assouplissent, les réglementations aussi. Je crois que c'est quelqu'un qui est un peu comme moi, qui, je le précise, je ne suis pas un héros, je suis très très lâche, mais j'essaie de contribuer un petit bout à essayer de faire bouger le monde, de mettre un petit peu de lumière dans le noir. Et elle, sans forcément croire qu'elle va sauver le monde, elle va essayer d'en sauver un petit bout.
Alors, on a parlé d'un territoire sans ombre, mais avec beaucoup de zones d'ombre. Hein. Bon, je pense qu'on va y revenir. Mais on n'a pas dit le parce qu'on parle d'un endroit où il fait très chaud, où il y a des terres rares, etc. Mais le bouquin s'appelle Vostok. Hein, et Vostok, c'est une base en Antarctique, hein, établie par les Soviétiques en 1957. Alors pourquoi ?
Bah écoutez,
qu'est-ce que vient faire Vostok ici, quoi, dans cette histoire ?
Donc j'ai cru comprendre que les plaques minéralogiques parlaient à mon voisin. Moi, c'est les stations météo antarctiques, j'y peux rien. C'est mon obsession, oui.
Tu te soignes ?
Sur Vostok, je me suis soigné, justement. Mais je serais incapable de vous dire pourquoi. C'est pour faire court, c'est pendant une recherche pour le livre précédent, je suis tombé sur cette information. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a fasciné et ça m'a obsédé pendant quelques années. J'allais prendre régulièrement des nouvelles de cette station, qui est vraiment au milieu de nulle part. Où il fait un froid de canard à peu près 12 mois sur 12, il n'y a pas deux saisons, vous savez, dans le genre le 15 août et le reste de l'année, il fait à peu près moins 50 en moyenne. Il y a eu un record de canicule à moins 12 une année, mais vraiment, c'était là, ils n'en revenaient pas eux-mêmes. Et depuis 57, il y a des scientifiques soviétiques puis russes qui font des trous dans la glace pour savoir quel temps il faisait il y a 300 000 ans, il y a 500 000 ans. L'année dernière, on est arrivé au bulle d'air d'il y a moins 800 000 ans. Alors, on ne sait pas quel temps il fera à Arras demain. Par contre, on peut vous dire quel temps il faisait il y a 800 000 ans sur la planète Terre. Ne me demandez pas pourquoi, ça me fascine. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre, s'est croisé, je ne sais pas, le côté roman noir, le bien, le mal, le noir, le blanc. Quelle est l'antithèse totale de Vostok Antarctique ? Eh ben, c'est le territoire Awazati, Afrique du Sud, Namibie, on ne sait pas trop bien. Et, alors je ne sais pas si la misère est plus supportable au soleil. Je pense qu'en Antarctique, par moins 50, elle est difficilement supportable. Le seul avantage, c'est qu'il n'y a pas de misère là-bas. Alors, par contre, la station Vostok, pour le sujet de la table ronde, là, il n'est pas question de pourriture, parce qu'à ces températures-là, il n'y a absolument rien qui pourrit. Tout gèle.
Il n'y a pas d'ombre, mais il n'y a pas de soleil non plus, quoi. Hein, c'est ça.
Si, à Vostok, il fait très beau.
Ah oui,
bon. J'ai pas pensé à regarder la météo ce matin, mais il y a moins de 10 jours, il faisait moins 52. Le temps était un peu neigeux, mais dégagé en fin de journée.
Ouais, avant la prochaine émission, il faudra quand même regarder la météo du jour. Non, moi, j'ai une question, justement. Jean-Yves Goppel, vous avez parlé de recherche documentaire pour le précédent livre, mais là aussi, on sent, tout à l'heure, on a parlé de géologie. On sent qu'il y a une documentation importante. C'est vrai qu'il y a certaines pages qui pourraient se glisser dans un cours de sciences de la vie et de la Terre. Comment ça se passe ? C'est d'abord comme ça, une curiosité personnelle sur ces questions, ou c'est d'abord l'auteur qui a envie de parler de ça et qui se documente pour écrire son bouquin ?
Les trois, en général. Il y a curiosité, il y a respect du lecteur. et puis, je dirais, un truc tout à fait naturel, de ne pas raconter n'importe quoi. Sur certaines choses, attention, si vous commencez à causer entre vous, ça va pas aller.
Non.
J'ai plus regardé. C'est, quand je dis respect du lecteur, c'est moi j'adore inventer plein de choses, je suis très très feignant comme garçon. Donc moins je travaille, mieux c'est. Je suis très trouillard, je l'ai déjà dit, donc il n'est pas question que j'aille explorer le désert. Je vais me faire enlever par les Gaïeros. Comme je suis très lâche, je donnerai les noms tout de suite. Donc, il ne faut jamais m'embarquer dans votre réseau, je vous dis ça. Vous tombez avec moi, tout le monde. Je ne vais pas me promener. Ma voisine, elle, fait du Zodiac avec la brigade fluviale. Moi, j'ai le mal de mer. Donc, il n'est pas question que je fasse du Zodiac sur la scène. Déjà, dans ma baignoire, j'ai peur. Donc, il faut que je compense ça par une solide imagination et puis, quand même, des recherches sur ce que je ne connais pas ou que je crois connaître pour avoir, j'allais dire, un minimum d'informations. Ce n'est pas un minimum d'informations. C'est une certaine vraisemblance plus qu'un certain réalisme. Après, on touille tout ça dans le chaudron de l'écriture. Et puis, il en sort. Ce qu'il en sort, je ne prétends pas tout savoir. J'adore quand quelqu'un vient me dire « Ah, page 25, on sent que c'est documenté alors que c'est totalement inventé. » Ça veut dire que j'ai bien fait mon travail. Puis, j'aime bien aussi quand on vient me dire « Ah, mais page 75, c'était vachement bien aussi. » Alors là, par contre, c'était super documenté. Donc, c'est de trouver un petit peu l'équilibre des deux. Je peux pas mieux dire. C'est un peu le principe. L'autre jour, je discutais avec nos camarades policiers qui voulaient se lancer dans l'écriture et qui nous disaient « Mais moi, je sais de quoi je parle. » Et je leur avais dit en le taquinant un petit peu « Ouais, mais est-ce que tu sauras nous en parler ?»
Quelle belle formule.
Très jolie.
Alors, oui. Vous écoutez Radio PFM sur le 99.9 en direct du Salon du Livre d'Arras, Salon du Livre d'Expression Populaire de Critique Sociale. C'est une première collaboration entre 813 et Radio PFM, ce qui peut expliquer que les deux animateurs aient besoin d'ajuster un petit peu le pilotage de cette émission. Mais on écoute, on vous écoute, rassurez-vous, on est très attentif. On passe donc à Ingrid Astier un roman intitulé « Angle mort » à la Série Noire. Alors Ingrid Astier, c'est moi qui suis chargé de présenter votre livre. Et comme je vous l'ai dit juste avant le début de l'émission, pas de chance pour vous, tant pis. Il en fallait bien une parce que Hervé fait ça nettement mieux que moi.
Allez, Guy.
Alors pour commencer, je ne vais rien inventer, simplement lire la courte présentation qui figure en quatrième de couverture. Moi, les quatrièmes de couverture, c'est ce que regarde d'abord dans un bouquin, de votre deuxième roman qui est paru à la Série Noire, un thriller. Alors, donc, Ingrid Astier vit à Paris, révélée par Quai des Enfers, donc le premier roman, prix Paul Féval de la Société des gens de lettres, prix Lafayette, prix Polar en plein cœur, prix Sylvie Turion, donc pas mal de prix, un roman qui a eu du succès. Elle poursuit avec ce roman, Angle mort, donc une fresque dédiée à Paris et à la Seine. Et elle est la marraine de la brigade fluviale, d'où l'histoire des Zodiacs que Jean-Hugo Pell a failli me devancer dans la présentation de ce livre. Alors j'ai envie de dire, Ingrid Astier, compte tenu notamment du thème de cette émission, ce n'est pas Paris, ce n'est pas la brigade fluviale de Paris sur lesquelles nous allons nous pencher essentiellement, mais sur l'autre aspect de votre roman, puisque moi je considère que Angle mort, c'est une histoire de gendarmes et de voleurs. Donc,
il n'y a pas de gendarmes.
Il n'y a pas de gendarmes. Enfin, quand on dit gendarmes et voleurs, c'est référence.
Oui, oui,
oui. Et donc, il n'y a pas de voleurs non plus, puisque on va plutôt parler de braqueurs. Donc, c'est plutôt cet aspect, compte tenu du thème de l'émission, qui va nous intéresser. Quelque part, on vient de passer du braquage institutionnel, du braquage politique. Et avec votre roman, on en arrive à l'institution du braquage. Alors, braquage qui est symbolisé par votre personnage, le braqueur, Diego, spécialiste des DAB, donc DAB, distributeur automatique de billets. Alors, pour rentrer tout de suite dans le sujet, Ingrid Astier, comment avez-vous fait pour nous restituer aussi précisément le quotidien d'un braqueur? Parce qu'on sent vraiment, quand on lit ce roman, une connaissance, j'ai envie de dire, de l'intérieur des pratiques du braquage, des pratiques de l'attaque des DAB.
Oui, ça c'était le pari en fait. Vous ne pouvez pas débuter un roman de plus de 500 pages à la première personne avec comme première phrase « Les armes, c'est comme les femmes, on les aime quand on les touche. J'ai touché très tôt aux armes et aux femmes. » Donc déjà, vous débutez comme ça quand vous êtes une femme. Donc vous êtes obligé de vous poser, de vous mettre dans la peau d'un braqueur. Et vous ne pouvez pas tenir cette route, vous ne pouvez pas tenir cette distance au sens sportif et physique du terme même, si vous n'avez pas ce travail de migration qui fait que vous allez pendant 3 ans vous mettre à penser, à réfléchir et non pas agir hein, quand même, hein, mais à être vraiment dans les réflexes d'un vrai braqueur. Donc ça, il n'y a qu'une méthode pour moi, c'est celle que j'applique depuis Quai des Enfers, c'est d'aller au plus près, de vraiment jouer avec les frontières et d'aller à la rencontre en fait de n'importe quelle personne, de n'importe quel milieu, pour observer, repérer et m'imprégner vraiment des habitudes, des langages, des façons de se vêtir, jusqu'à ce qu'en fait il y ait un vrai travail de porosité et que le personnage devienne une frontière complètement absconce.
Alors bon, avec la brigade fluviale, on imagine ça assez facilement. Hein. Par contre, avec les braqueurs, c'est quand même plus compliqué d'aller au plus près de comment ça se passe.
C'est pour ça que je suis beaucoup allée au cirque avant. Donc je me suis habituée avec les grands fauves, parce qu'il y a aussi un personnage de trapéziste mort.
Tout à fait,
Donc c'est pas du tout gratuit ce que je dis. C'est vrai, j'ai fait tous les spectacles de cirque, donc pareil, la même méthode, hein, pour trouver aussi ma trapéziste. Et j'ai retenu 4 trapézistes. Une Allemande, une Norvégienne, une Espagnole, et puis ensuite une qui était morte. Et ça m'a beaucoup impressionné, le domptage, en fait. Comment on pouvait approcher les fauves. J'ai beaucoup parlé avec un dompteur allemand qui m'a parlé aussi de sa pratique. Et ça m'a servi pour me dire, bah, tiens, il faut déjà abolir la peur. Donc il faut que j'approche toutes ces personnes sans aucun a priori. Parce que je ne suis pas là pour rendre la justice, il y a des instances pour ça. Et le roman, pour moi, ça doit rendre justice à l'humain, c'est-à-dire à l'observation, à la curiosité et à une abolition des frontières. Parce que c'est des milieux qui ne communiquent pas du tout, les écrivains ne communiquent pas tellement avec les braqueurs. Donc eux aussi, ils ont une forme de curiosité pour nous. Et je me sers de cette curiosité réciproque pour justement obtenir une rencontre et une confiance. Et donc ça, évidemment, c'est des milieux qui sont extrêmement paranoïaques. Donc c'est un parcours du combattant pour arriver à les trouver, ensuite à ce qu'ils me fassent confiance, et puis après qu'il y ait une vraie relation pour qu'ils me révèlent aussi des trucs. Donc dans Angle Mort, il y a des vrais trucs de braqueurs, ça c'est sûr. Le Canard Enchaîné, on avait beaucoup ri en disant que c'était un peu le manuel du jeune braqueur et du jeune poulet, parce que les deux pouvaient trouver des techniques, parce que j'ai fait le même travail du côté policier en fait, avec les groupes de répression du banditisme, avec la brigade anticriminalité, et j'étais allée tirer avec toutes les armes du raid aussi pour être vraiment dans les sensations de tir de mon braqueur, parce que comme il est fou des armes, c'était impossible aussi physiquement de restituer les sensations de tir si j'avais jamais tiré de ma vie. Et pareil avec les démineurs pour les explosifs.
Alors qu'est-ce que ça fait de tirer ?
On va dire, tout dépend si vous tenez dans vos mains une arme de policier ou une arme de bandit. Ce qu'il y a de très impressionnant, c'est une des premières fois où on m'a mis un Beretta entre les mains. C'était un Beretta de voyou. Et c'était dans des circonstances assez troubles, parce que c'était pour me tester, justement. C'était pour essayer de voir mes limites, de m'expliquer les règles. Et une arme de voyou, c'est une arme qui vous brûle les mains. Mais vraiment, c'est symboliquement, vous sentez que c'est une arme qui est du côté quand même du mal et qui est au service quand même du vice. Donc ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Vraiment, cette arme, elle me brûlait les mains. Elle avait une sorte d'histoire qui était très pesante. Tandis que je pense que mon plus grand baptême, c'est d'avoir tiré avec une arme de sniper, en fait. Et ça, c'était très différent comme sensation, parce que là, vous sentez que vous accédez à un secret, en fait. C'est en 7,62x51.
Oui, toutes ces précisions hein, dans le roman, donc, Angle Mort. Hein.
Alors,
et pas d'angle mort pour les snipers.
Hein. Non.
Hervé ?
Oui, Ingrid, vous venez de parler, de citer le mot « vice ». Et puis par ailleurs, il y a une. C'est toujours intéressant de voir comment s'ouvre un livre. Il y a un grand plan d'Aubervilliers, je crois, au tout début d'Angle Mort. Enfin, j'en suis sûr d'ailleurs. Et
certifié aussi.
Je confirme. Hein, notre...
Voilà, nous avons la même édition. Et vous dites, Aubervilliers était l'une des banlieues les plus criminogènes autour de Paris, une ceinture du vice et du crime. Vous, si on peut dire, Aubervilliers, c'est un concentré de monde pourri.
Ah, pas du tout. Aubervilliers, pour moi, ça a été une révélation. J'y suis énormément allée, toujours avec la même méthode, avec mon vélo, toute seule la nuit, le jour, vraiment à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Parce que le vélo permet de s'arrêter immédiatement. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui m'intéresse, j'ai toujours un appareil photo sur moi, et immédiatement, je peux faire des repérages, je peux prendre des milliers de photographies, et aussi, j'enregistre beaucoup. Donc, quand j'ai découvert Aubervilliers, pour moi, ça a été une révélation, je disais, mais par rapport à l'humain. Parce que, bien sûr, que c'est une des banlieues les plus criminogènes, qu'il y a une vraie tension. C'est pas pour rien qu'à Aubervilliers, il y a énormément de garages et de bars. Déjà, ça, c'est vraiment un des critères pour comprendre la criminalité. Il y a beaucoup trop de bars et il y a beaucoup trop de garages. Donc, c'est obligatoirement assez suspect. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est des bars comme on n'en a plus dans Paris. C'est Belleville, il y a 30 ans. Donc, vous entrez dans un bar à Aubervilliers, vous avez... un cambrioleur, un braqueur, des prostituées, du travail illicite et des machines à sous. Vous avez des Acapulco, on ne voit plus d'Acapulco dans Paris. Donc il y a des caisses cachées avec des pièces. Il y a une vraie vie, il y a une verve, il y a du pittoresque, il y a des têtes aussi. Parce que ça aussi, la criminalité pour moi, c'est des visages, c'est des tronches, ce qu'on appelle des tronches. Donc... je justifie rien quand je dis ça. Mais moi, sur le plan de l'écriture, ça m'intéresse pour arriver à capter aussi cet éventail humain dans ce qu'il a de plus riche, donc de plus complexe et de plus étendu. Moi, je dis que dans mes romans, je m'intéresse à tout le monde. Ça va du policier au chef de la crime, au SDF, au pêcheur à la mouche et au braqueur. Donc il n'y a personne qui n'est exclu dans l'écriture. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment une terre où finalement chacun a sa place. Et Aubervilliers, c'est tout autant les débris de verre devant le commissariat, parce que comme il y a beaucoup de vols à la portière, les gens ils viennent tapoter leur portière, et donc ça signe toutes les banlieues un peu chaudes autour de Paris, ces bris de verre devant le commissariat. Ce que j'ai vraiment vécu, c'est-à-dire à un moment où vous déambulez, vous arrivez devant une sorte de camionnette sous l'autoroute A86. Alors la nuit, c'est vrai que c'est pas les lieux les plus touristiques autour de Paris, mais en même temps, moi, c'est des lieux, mais vraiment, où j'ai vécu des choses très fortes. Cette camionnette, c'était pas du tout des prostituées, c'était en fait une haïtienne qui prépare du poulet boucané, donc ça sent très bon, ça sent le citron vert, quand la nuit arrive, il y a de la musique, comme au carnaval, il y a des gens qui arrivent, on ne sait même pas d'où, tellement c'est une sorte de zone, et là, il y a une vie intense, sur le plan humain, il y a quelque chose qui se passe.
Il y a aussi, une dernière question peut-être pour l'instant. Il y a un personnage qu'on a évoqué au passage tout à l'heure, un personnage aérien qui est au milieu de ces flics étruants, qui est Adriana, une trapéziste. Ben, j'aimerais bien que vous nous parliez d'Adriana, la volante et les voleurs, Adriana et ses frères.
Voilà, c'est une fratrie, donc c'est deux frères qui sont braqueurs, Diego et Archibaldo, et leur petite sœur qui est Adriana, qui, elle, est trapéziste, donc comme vous l'avez dit, c'est les voleurs et la volante. Ça, je suis très heureuse de ce personnage d'Adriana, parce que dans Quai des Enfers, le premier roman, je sentais que j'avais une réticence par rapport au personnage féminin. Je pense que j'avais peur d'une potentielle migration, parce que moi, j'aime vraiment bâtir des mondes. Ce qui m'intéresse, c'est pas l'autofiction, c'est pas de raconter ma vie, je vis assez avec moi pour ça. C'est justement d'aller investir d'autres mondes, de sentir d'autres personnalités à travers mes personnages et de vraiment gagner en premier lieu, moi, une vie par procuration. Donc je me méfie toujours des personnages féminins parce que j'ai peur de tout ce qui peut filtrer aussi un peu de moi. Et là, dans Angle Mort, il est arrivé une sorte de magie. C'est que j'ai plus du tout peur de m'attaquer à un vrai personnage de femme tel que moi je la rêve, c'est-à-dire pour moi l'essence de la femme, c'est vraiment la rencontre de la grâce et de la force. Et pour ça, la trapéziste, c'était presque la figure archétypale, parce que c'est à la fois une femme qui est toute dans une dévotion artistique. Il faut être folle pour être trapéziste. C'est du risque, c'est 6 heures d'entraînement par jour, c'est 10 minutes de numéro, c'est une vie vraiment marginale. Et puis c'est un choix fort de liberté en même temps, hein, artistique. Et en même temps, c'est énormément de force. Parce que j'ai vraiment emmené la trapéziste qui m'a inspirée, Lisa Rinna. Dernièrement, je l'ai emmenée dans un des services de police. Et puis alors, elle les a épatées, justement, en étant capable de démonstrations de force qui étaient que presque aucun homme n'arrivait à faire. Donc c'est une toute petite femme, vraiment... Tout en exploit, quoi. Mais il y a aussi une grande humilité de cet exploit, parce que c'est dans un cirque, que c'est un royaume populaire, le cirque, et ça, j'y tiens beaucoup. Il y a une vraie magie comme ça dans cette enclave, et en même temps, bah, c'est une magie qui est humble, qui est à la portée de tous.
Alors, j'insiste un peu, hein, non pas que la partie qui concerne le cirque, que la police, hein, ne m'est moins intéressée, bien au contraire, mais j'insiste quand même sur l'aspect braquage, et j'ai envie de dire, par rapport au thème de notre émission, de vous demander, y a-t-il quelque chose aujourd'hui de pourri dans le braquage ? Mais quand je dis ça, je pense un peu à ce que disait tout à l'heure François Medline, hein, en comparant le Chirac, un professionnel quelque part, hein, de la politique, des politiques d'aujourd'hui qui font ça nettement moins bien ou nettement plus salement peut-être.
Bien sûr, ouais.
Et au niveau du braquage, d'ailleurs le livre commence sur vraiment un braquage qui dérape, qui tourne mal. Donc est-ce qu'aujourd'hui...
Et qui est inspiré d'un vrai fait divers,
voilà,
pour celui-ci.
Donc est-ce qu'on peut établir un lien, justement, entre...
Absolument, parce que... Alors après, il ne faut pas idéaliser. Bien sûr qu'il y a eu cet âge d'or des beaux mecs, en fait. Mais un beau mec, c'était quand même quelqu'un, s'il était en situation périlleuse, il n'aurait pas hésité à tirer. Mais il n'aurait pas tiré dans n'importe quelle condition. Pour lui, tirer, c'était un échec. Tandis qu'aujourd'hui, on a vraiment cet essor de... Ce que les policiers appellent les braquouilleurs, c'est des jeunes braqueurs opportunistes qui sont de plus en plus jeunes, qui ont parfois entre 13 et 14 ans, qui ont joué aux jeux électroniques toute la matinée, qui se lèvent, enfin leur matinée elle commence à 13 heures, hein, donc ils se lèvent, ils ont joué, ils ont juste besoin de cash, donc ils vont aller taper comme ça au plus près, à la station-service, et ils sont prêts à doucher quelqu'un à la bombe lacrymo, mais pour rien, ils vont taper pour rien, Il y a une sorte de violence comme ça, vraiment gratuite, qui n'est pas du tout professionnelle. Et d'ailleurs, les boss de ces milieux du grand banditisme, ils disent « mais c'est pas du business ». Et c'est leur expression, ils disent « ça, c'est pas du business, on ne travaille pas comme ça, c'est pas possible ». Et c'est vrai que ça, c'est assez inquiétant de voir cette violence gratuite de plus en plus jeune.
Alors... Je ne sais pas si vous vous êtes lus les uns les unes les autres, a priori oui, vu les mouvements de tête, mais j'invite aussi le public éventuellement, hein, si quelqu'un souhaite poser une question par rapport au thème de l'émission, hein, à chacun des auteurs, n'hésitez pas, hein, vous me faites un petit signe. Mais en tout cas, moi j'ai envie de vous demander, peut-être échanger autour de... Pourquoi écrivez-vous sur le pourri ?
C'est une question pas malinotante, ça, normalement.
En train de chercher. Pourquoi ? Est-ce que la réponse cachée est parce qu'on est pourri un peu nous-mêmes ? Je ne sais pas, peut-être, c'est possible. Non, parce que moi, personnellement, c'est parce que j'ai très mauvais esprit, je suis très désespéré, très, négatif comme garçon. Et donc, c'est ce côté-là qui m'intéresse. Ça me rappelle plein de citations d'un roman de science-fiction que j'adorais quand j'étais petit, que j'aime toujours, d'ailleurs. De John Brunner qui s'appelle Tous à Zanzibar, où il y a un célèbre sociologue, Chad C. Mulligan, qui a écrit un précis de la déliquescence. Ça a été écrit il y a fort longtemps et ça avait déjà à peu près tout prévu. Est-ce que quelque part, inconsciemment, ça m'a, comment dire, influencé ? Je pense que oui. Tout ça, je pense, m'émeut, me remue. Ma voisine avait raison, que ce soit effectivement, et mon voisin aussi, chez les hommes politiques, chez les braqueurs. On trouve plus de personnel, mon bon monsieur. On ne trouve plus de personnel. Le travail est salopé. Dans le temps, on savait détourner des fonds avec brio, classe. Maintenant, non, c'est terminé.
Il y avait même un braqueur qui offrait des bouquets de fleurs à la fin, quand il braquait les banques. Ça, c'est une histoire vraie, oui. Donc, il braquait la banque, mais à la fin, comme pour s'excuser, il offrait un bouquet de fleurs. Ça, c'est old school. Hein. C'est vraiment...
Je veux bien faire ma mélinotombe, pour le coup. Parce que quand j'étais dans ma période étudiante, j'ai lu un bouquin d'un philosophe français qui s'appelle Georges Canguilhem. Lisez-le, Le normal et le pathologique. Et en fait, il explique que c'est pas le normal qui sert à définir le pathologique, c'est le pathologique, en fait, l'existence du pathologique qui nous sert collectivement à définir ce qu'est la norme. Et ben en fait, je crois que le roman noir, quand même, c'est un roman profondément moral, quoi, pour le coup. enfin, de mon point de vue. C'est profondément moral, et montrer l'immoralité, travailler sur la pourriture, ben, ça permet justement de construire une éthique, une morale tout au long du bouquin, et de montrer qu'il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien, quoi.
Comme tout le monde a cité un auteur, je vais citer un autre précis par rapport à Jean-Hugues Opel.
Oui.
C'était le précis de décomposition de Suran. Donc ça m'avait beaucoup impressionné comme lecture de jeunesse, parce que ça montrait que tout ce qu'on pouvait considérer comme valeur négative, finalement, avait une forme, pas forcément de positivité, mais de dynamique. Et, la vie, c'est ça. On ne peut pas être dans ces cloisons. Enfin, pour moi, le roman policier, ça sert vraiment à décloisonner, à faire dialoguer des milieux qui ne dialoguent pas, à rendre la parole à des gens qu'on n'écoute pas. Et en même temps, on ne peut pas raisonner avec des catégories de pourri ou pas. Le pourri, pour moi, c'est du vivant, c'est tout. Donc, même une scène, par exemple, d'autopsie, c'est du vivant. La mort, c'est du vivant. Donc, pour moi, ça a la même place, la monstruosité a la même place que ce qu'on va nommer la normalité. On est juste en train d'explorer l'humain, en fait. Mais l'humain dans toute son étendue. Donc, il n'y a pas de positif ou négatif, il n'y a que du vivant.
Hervé ?
Oui, je vais en plus, moi aussi, terminer par une citation. Mais avant cela, bon, bah, Ingrid Astier, c'est votre deuxième livre à la série noire. Jean-Hugues Opel, vous aviez commencé à la série noire, mais vous êtes depuis longtemps chez Rivage Noir. Donc deux collections historiques et connues et très pertinentes dans le monde de la littérature polar. Votre premier livre, François Médéline, à la Manufacture de Livres, est délibérément inscrit comme un roman noir. On va remonter dans le temps. En même temps, puisque nous inaugurons ce partenariat PFM 813, je sais que ça va faire plaisir à Guy Lesniewski que je cite Victor Hugo. Victor Hugo a dit, je crois que ça se trouve quelque part dans Les Misérables, « Vous vous prenez la tête dans les mains, vous tâchez de voir et de savoir. Vous êtes la fenêtre dans l'inconnu. » L'homme qui ne médite pas vit dans l'aveuglement. L'homme qui médite vit dans l'obscurité. Nous n'avons que le choix du noir. C'est le choix littéraire que vous avez fait délibérément.
Ah, pour moi, pour le coup, c'est pas un choix, quoi. Ça vient des lectures. J'ai lu très jeune Camus, L'étranger, à 11 ans et demi, 12 ans. Mort à crédit de Céline. Ouais, c'était des romans qui me ravageaient. Demande à la poussière de John Fante. Et puis après, au départ, je me suis mis à écrire chez ma mère, il n'y avait que du masque, donc je croyais qu'il fallait un avocat, une jaguar, etc. Donc j'ai fait des petites nouvelles quand j'étais très très jeune. Ça ressemblait à rien. Puis un jour, j'ai lu Le Grand Nulle Part de James Ellroy et ça m'a libéré. Je me suis dit, putain, en fait, on peut écrire ce qu'on a au fond de soi, c'est le top. Donc je crois que on écrit ce qu'on a en soi, et puis après, le fait est que ça s'apparente à ce genre-là, parce qu'effectivement, ça mouline, quoi, par rapport à la citation. On réfléchit, quoi. On réfléchit surtout, on se pose des questions. Bon, Ingrid est courageuse, donc elle va au contact de la réalité. Jean-Hugues est moins, comme
là,
moi.
Non, Jean-Hugues est lâche.
Ouais, moi, je suis moins courageux, on va dire ça comme ça.
N'exagère pas.
Et je sais plus ce que je vous disais, mais
que tu étais lâche.
Non, ouais, non, je sais plus ce que je vous disais. J'ai perdu le fil avec ma blague sur la lâcheté. Voilà.
Ingrid Astier.
Moi, ce choix du noir, je dirais que c'est presque mon seul choix de maturité dans la vie, parce que en tout, ce qui m'est le plus cher, c'est de préserver l'esprit d'enfance dont parlait Bernanos. Hein, parce que pour moi, ce qui est vraiment pourri, c'est quand on est dans cette mort du vivant qui est de ne plus observer, de ne plus regarder, de ne plus être attentif à la fois au lieu, aux gens et à l'exotisme, à l'altérité en fait. Donc le noir, c'est mon seul choix. Je disais mature parce que je me suis toujours dit, ben, il ne faut pas que tu aies peur du noir. Quand on est petit, on a toujours peur du noir. Et finalement, je me rends compte que plus je vieillis et plus j'aime la nuit. Plus j'aime la nuit, plus j'aime le noir, plus j'aime ne plus avoir peur du noir. Parce que, encore une fois, c'est un lieu où l'humain est beaucoup plus nu, où il est beaucoup plus proche, en fait, de sa vérité. Et ça m'émeut, donc ça me fait écrire.
Jean-Hugues Opel.
Bon, moi, j'avais commencé par faire de la SF pour avoir l'excuse du futur, mais ouais, c'est dans les gènes. J'y peux rien, je lui dis, je suis un mauvais garçon, je vois le noir partout où il est, et c'est un réflexe, j'y pense même plus. On en parlait l'autre jour avec Caril Ferrel sur l'élection du pape, le brave François, qui est un pape argentin, qui a un certain âge, et Caril et moi, mais sans même se concerter, tout de suite on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'il faisait pendant la dictature, ce brave homme ? Alors on aurait pu se dire, tiens, comment la vocation lui ? Et c'est le premier réflexe. L'autre jour, c'était avant-hier, on écoute les actualités. Ah, cher monsieur, comme disait mon camarade, on a trouvé des sous sur votre compte. Oui, j'ai vendu 2 tableaux. Alors, avant de raconter n'importe quoi, on s'enseigne sur la côte. Bah, pas de bol, c'est mal tombé. Alors j'ai ma collection de Placide Amuseau à céder à vil prix, je tiens à signaler, si ça intéresse quelqu'un, faire offre à la radio. Et là, c'est fabuleux. Donc ça veut dire que le mec, soit c'est un menteur, soit c'est un gros nul. Et paf, on repart dans le noir. Automatique, on ne peut pas faire autrement. C'est le... Je sais pas comment vous dire ça. Moi, j'adore sur le noir, c'est le noir du crépuscule. Je vais théoriser ça un jour, c'est le haut point d'eau. Au point d'eau, au crépuscule, à l'heure où les lions vont boire, il y a une trêve tacite. C'est les herbivores qui viennent d'abord, ou les lions, etc. Et il y a une espèce de pacte de non-agression, si tout va bien, hein, s'il n'y a pas de disette ni de famine, parce qu'il faut que tout le monde boive. Si le lion profite de la gazelle est en train de boire pour lui sauter dessus, la gazelle ne vient plus boire. La gazelle meurt, le lion n'a plus de gazelle à bouffer, le lion meurt. Donc il y a cette espèce de, comment dire, trêve tacite entre tout le monde. Il y a une seule espèce qui, au point d'eau, se fout sur la gueule pour la possession du point d'eau, c'est l'homme.
François, tu as retrouvé peut-être le...
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que... Voilà, on calcule... Enfin, pour moi, je calcule pas ce que j'écris. Et le fait est, ouais, il dit c'est génétique, mais voilà quoi, c'est le regard qu'on porte sur le monde, c'est cette façon-là dont on l'appréhende, et c'est comme ça que, tripalement, on le recrache, quoi, quand on écrit.
Eh bien, vive le noir, je pense que les personnes qui nous ont écoutés, qui vous ont écoutés, nos auditrices, nos auditeurs, auront particulièrement envie d'aller découvrir vos bouquins, si ce n'est pas encore fait. Donc je rappelle, nous recevions Ingrid Astier pour Angle Mort à la série Noire. Nous recevions Jean-Hugo Pell pour Vostok en Rivage Noir. Et François Medellin pour La politique du tumulte. Aux éditions la Manufacture de Livres, entre parenthèses, la Manufacture de Livres a édité un livre de braqueurs, hein, puisqu'on peut aller essayer de les rencontrer, mais hein, ils écrivent aussi. C'est il faut m'aider.
Redouane Faïd.
Voilà, Redouane Faïd, un braqueur dont on a entendu parler il y a peu, puisqu'il s'est...
Difficile de le trouver, je crois.
Oui, il s'est évadé d'une prison qui se trouve pas très loin d'ici, à Sécedin. Donc, merci à vous, merci à 813, à Hervé Delouche pour cette première collaboration.
Merci Guy pour cet accueil.
Voilà. Et puis donc, eh bien, merci. Il est bientôt 18h, hein, donc nos programmes en direct se termine en direct du Salon du Livre d'Arras, littérature d'expression populaire et de critique sociale. Merci à tous les animateurs, hein, qui, tout au long de la journée, ont assuré un certain nombre de débats, et à nos techniciens salariés qui ont choisi, plutôt que de défiler ce matin, de monter la sono, les tables de mixage, etc. Merci à eux. Bien bonne fin de journée à toutes et à tous. Au revoir.
Au revoir.